Apocalypse chapitre 3, à partir du verset 7. Et à l'ange de l'assemblée qui est à Philadelphie, écrit : Voici ce que dit le Saint, le véritable, celui qui est la clé de David, celui qui ouvre et que nul ne fermera, qui ferme et nul n'ouvrira. Je connais tes œuvres. Voici, j'ai mis devant toi une porte ouverte que personne ne peut fermer, car tu as peu de force. Et tu as gardé ma parole, et tu n'as pas renié mon nom. Et à l'ange de l'assemblée qui est à Laodicée, écrit : Voici ce que dit l'Amen, le témoin fidèle, le véritable, le commencement de la création de Dieu. Je connais tes œuvres, que tu n'es ni froid ni bouillant. Je voudrais que tu fusses ou froid ou bouillant. Ainsi, parce que tu es tiède et que tu n'es ni froid ni bouillant, je vais te vomir de ma bouche. Parce que tu dis, je suis riche, je me suis enrichi, je n'ai besoin de rien, et tu ne connais pas que toi, tu es malheureux, et le misérable, et pauvre, et aveugle, et nu. Je te conseille d'acheter de moi de l'or passé au feu, afin que tu deviennes riche, et des vêtements blancs, afin que tu sois vêtu, et que la honte de ta nudité ne paraisse pas, et un collier pour oindre tes yeux, afin que tu voies. Moi, je reprends et je châtie ceux que j'aime. Aie donc du zèle et repens-toi. Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et qu'il ouvre la porte, j'entrerai chez lui et je souperai avec lui et lui avec moi. Nous allons lire un autre passage dans l'Évangile selon Jean. Chapitre 10, au début du chapitre. « en vérité, je vous dis, celui qui n'entre pas par la porte dans la bergerie des brebis, mais qui y monte par ailleurs, celui-là est un voleur et un larron. Mais celui qui entre par la porte est le berger des brebis. À celui-ci, le portier ouvre, et les brebis écoutent sa voix, et il appelle ses propres brebis par leur nom et les mène dehors. » Et quand il a mis dehors toutes ses propres brebis, il va devant elles. Et les brebis le suivent, car elles connaissent sa voix. Mais elles ne suivront pas un étranger, mais elles s'enfuiront loin de lui, parce qu'elles ne connaissent pas la voix des étrangers. Jésus leur dit cette similitude, mais ils ne comprirent pas ce que c'était qu'il leur disait. Jésus donc leur dit encore, « en vérité, je vous dis que moi, je suis la porte des brebis. » Tous, autant qu'il en est venu avant moi, sont des voleurs et des larrons, mais les brebis ne les ont pas écoutés. Moi, je suis la porte. Si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé. Et il entrera, il sortira, il trouvera de la pâture. Le voleur ne vient que pour voler et tuer et détruire. Moi, je suis venu afin qu'elles aient la vie et qu'elles l'aient en abondance. » Ce sont des passages qui nous parlent de certaines portes. Alors, il y a beaucoup de portes dans la parole de Dieu. Et il y a des portes différentes. Et j'aimerais que nous retirions aujourd'hui quelques pensées fondamentales concernant les portes, le principe des portes. Qu'est-ce que ça veut dire, une porte ? Alors, une porte, c'est un moyen qui ouvre ou qui ferme l'accès à un certain lieu. Une porte ouverte nous donne accès à un certain lieu ou à un certain chemin. Une porte fermée nous prive de cet accès ou de ce chemin. Et dans le premier passage que nous avons lu, cette lettre qui est adressée à Philadelphie, il y a un principe très important qui nous est donné là. Il est dit au verset 7, donc Apocalypse 3, verset 7, « Voici ce que dit le Saint, le véritable. » Le véritable, c'est le Seigneur Jésus. Il est saint, il est pur, il est vrai, tout ce qu'il dit est vrai. Et c'est lui qui détient la clé de David. Et il nous est dit, celui qui ouvre et nul ne fermera. Et qui ferme, et nul n'ouvrira. Et voilà, et dans la vie, nous allons rencontrer des portes. Et il y a les portes que le Seigneur ouvre. Et ces portes que le Seigneur ouvre, aucun homme ne peut les fermer. Et puis, il y a ces portes que le Seigneur ferme. Et aucun homme ne peut les ouvrir. Nous allons trouver des exemples dans la parole de Dieu. C'est le Seigneur qui ouvre ou qui ferme. Et le Seigneur Jésus lui-même, nous l'avons lu dans l'Évangile selon Jean, chapitre 10, il se présente comme étant la porte. D'abord, il y a plusieurs portes dans ce chapitre 10 de Jean. Nous avons lu qu'il est celui à qui le portier a ouvert. Il est celui qui est venu, non pas comme un voleur, non pas comme quelqu'un qui vient pour ravir, pour voler, mais Dieu lui a ouvert l'accès pour venir sur la terre, pour venir chercher ses brebis. C'est Dieu qui l'a envoyé, c'est Dieu qui a ouvert le chemin du Seigneur Jésus pour venir sur la terre. Et ce chemin, il a été ouvert au travers des Écritures de l'Ancien Testament. Celui qui lit attentivement l'Ancien Testament va comprendre que Dieu ouvre la porte à ce chemin que le Seigneur Jésus va parcourir sur la terre, comme étant celui qui est annoncé, celui qui est juste et celui qu'il fallait attendre. Et non pas celui qui vient pour voler, pour dissimuler, pour faire semblant. Nous avons lu, ceux-là sont des voleurs, des larrons, des gens qui n'entrent pas par la porte, des gens qui entrent par un moyen dissimulé. Le Seigneur n'est pas comme cela. Le Seigneur Jésus vient comme étant celui de qui Dieu lui-même a ouvert la porte. Et il se présente ensuite comme étant la porte. Lui-même est la porte. Et ça, c'est très important. Le Seigneur Jésus, il est la porte, la seule porte qui nous mène à Dieu. Le Seigneur Jésus dit aussi dans l'Évangile de Jean, « Je suis le chemin, la vérité, la vie. Nul ne vient au Père que par moi. » Uniquement au travers du Seigneur Jésus. Le Seigneur Jésus, il est comme une porte unique. Il n'y en a qu'une pour aller au ciel. Il n'y en a qu'une pour aller dans la présence de Dieu. C'est le Seigneur Jésus. Toute autre porte que les hommes voudraient vous faire croire qui mène à Dieu, c'est faux. Ce ne sont pas des portes. Les hommes peuvent parfois nous faire croire qu'ils ouvrent des portes, mais si ce n'est pas la porte de Dieu, elle nous mène à la perdition. Donc la porte, ça veut dire le moyen par lequel nous entrons dans une bénédiction de la part de Dieu. Et c'est le Seigneur Jésus lui-même. Alors le Seigneur Jésus, il est la porte qui nous emmène, il est la porte du ciel. Nul ne vient au Père que par lui. Il est celui par qui nous allons entrer dans le ciel, tous. D'ailleurs, si nous relisons dans la première épître aux Thessaloniciens, lorsque le Seigneur Jésus va venir chercher les saints qui sont déjà endormis et nous qui sommes encore vivants, c'est lui qui va nous faire entrer dans le ciel. Il va venir à notre rencontre pour nous enlever et nous faire entrer dans le ciel. Il est la porte. Nous n'allons pas entrer dans le ciel sans lui. Ça, c'est très important. Et alors que nous sommes encore sur la terre, l'aspect du Seigneur Jésus comme étant la porte a plusieurs variantes, plusieurs aspects dans notre vie. Ici, nous avons lu dans Apocalypse, à l'assemblée qui est à Philadelphie, où il y a véritablement l'amour pour Dieu, l'amour de Dieu. Il est dit, voici j'ai mis devant toi une porte ouverte. Ah, une porte ouverte. C'est le Seigneur qui ouvre une porte ouverte devant ceux qui s'attendent à lui, devant ceux, comme il est dit là, qui n'ont peut-être pas beaucoup de force, en tout cas qui s'en rendent compte, mais qui gardent sa parole, c'est-à-dire qui donnent beaucoup de valeur à ce qu'il dit. et qui trouve que c'est très important de le mettre en pratique. Il dit « J'ai mis devant toi une porte ouverte ». C'est une porte qui a été placée par le Seigneur. On pourrait dire « C'est le Seigneur lui-même ». Pour la vie sur la terre. C'est le chemin dans lequel il désire que nous marchions vers notre patrie céleste. Et le Seigneur dit, dans ce passage, il y a des gens qui s'opposent, il y a des difficultés, tu as peu de force, mais j'ai ouvert une porte. Et c'est ce chemin-là que tu dois employer, c'est ce chemin-là que tu dois suivre, ou que vous devez suivre, ensemble. Et personne ne peut fermer ce chemin. Personne ne peut fermer cette porte puisque c'est moi qui l'ai ouverte. Parfois, on pourrait dire devant des difficultés, « Ah, oui, mais c'est difficile. C'est difficile. » Mais si c'est le Seigneur qui l'a ouvert, qui a ouvert cette porte, il faut s'y engager, il faut avancer. On verra, les hommes vont essayer de fermer les portes ou de nous faire croire qu'elles sont fermées parfois. Mais là, c'est le chemin à la suite du Seigneur Jésus. Cette porte ouverte, c'est suivre le Seigneur Jésus dans le chemin de la vie, ensemble. J'ai mis une porte ouverte devant toi. Personne ne peut la fermer. C'est comme s'il nous disait, en d'autres mots, je vous ai expliqué ce que j'attends de vous dans les Écritures. Je vous ai ouvert les Écritures. Faites-le. Personne ne peut vous empêcher de pratiquer ce que je vous demande de faire. Tu as gardé ma parole. Et peut-être qu'on a des exemples dans les Actes. On peut être mis en prison. Et on est limité dans ses actions à cause de notre foi, mais ça n'empêche pas que la porte des bénédictions elle est ouverte et qu'il faut continuer dans ce chemin de la foi. Avancer dans le chemin de la foi, ce n'est pas toujours physiquement ou matériellement, c'est surtout dans son cœur et dans son âme. Alors il dit ici, « J'ai mis devant toi une porte ouverte que personne ne peut fermer. Tu as peu de force ?» Mais tu as gardé ma parole. Tu n'as pas renié mon nom. Ça, c'est très important, le nom du Seigneur. Nous faisons beaucoup de choses au nom du Seigneur, ou nous disons beaucoup de choses au nom du Seigneur. Il faut que ce soit une réalité. Nous prions au nom du Seigneur. Nous faisons ça. Ça, c'est la porte que le Seigneur nous a ouverte. C'est ça qu'il faut faire. Et personne ne peut la fermer. Nous pouvons abandonner. Je ne dis pas nous pouvons. Il est possible que nous abandonnions de notre propre faute le chemin que le Seigneur nous ouvre ou que nous ne nous engagions pas dans cette porte qu'il nous ouvre. Mais la porte est ouverte. Alors, ça, c'est notre responsabilité à nous. On a lu dans le passage concernant Laodicée qu'il y a une autre porte, c'est la porte de mon cœur, ou la porte de notre cœur. Et le Seigneur Jésus, il est celui qui ouvre les portes et personne ne peut fermer, ou qui les ferme, personne ne peut ouvrir, mais il est aussi celui qui ne force pas les portes. Le Seigneur Jésus ne va jamais forcer la porte de ton cœur pour y entrer. Qu'est-ce qu'il fait? On le lit là. Il frappe à la porte. Le Seigneur Jésus ne force pas son entrée. Il entre seulement là où on l'invite. On trouve des exemples dans la parole de Dieu. Par exemple, chez Zachée, bien que là, c'est le Seigneur qui s'est invité chez lui. Zachée, descends vite. Aujourd'hui, il faut que je demeure, que je loge dans ta maison. Mais c'est parce qu'il dit dans le cœur de ce Zachée qui est prêt à le recevoir. Et il y eut de la joie. Vous ai dit. Voilà. Mais le Seigneur ne force pas son entrée. Si nous lui fermons la porte, il reste dehors. C'est vrai au point de vue individuel dans mon cœur. Si je refuse de me repentir, déjà pour le salut, le Seigneur ne va pas me forcer à l'accepter comme sauveur. Et si dans ma vie chrétienne, je refuse de me repentir pour certaines choses que je fais mal ou ajuster certains faux pas, le Seigneur ne va pas me forcer à rétablir la communion, mais il va me parler, il va frapper à ma porte, il va se faire entendre. Et qu'est-ce qu'il nous est dit là? Eh bien, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et qu'il ouvre la porte, j'entrerai chez lui et je souperai avec lui et lui avec moi. Souvent, le Seigneur frappe à la porte de notre cœur. Nous sommes déjà sauvés, mais nous avons perdu cette communion proche avec le Seigneur Jésus. Nous pensons que nous sommes quelque chose par nous-mêmes, peut-être comme ici à Laodicée, nous sommes riches. Nous oublions de parler du Seigneur. Nous oublions d'organiser notre vie avec le Seigneur en vue. Nous oublions cette porte qui nous a ouverte pour marcher à sa suite. Peut-être nous regardons à d'autres portes, d'autres chemins qui sont celles du monde. Notre cœur n'y est plus. Le Seigneur frappe. Elle est fermée. Mais celui qui ouvre, il reçoit la grâce. Celui qui ouvre, il reçoit la restauration, il reçoit la communion, la joie d'avoir le Seigneur chez soi. Donc le Seigneur ne force pas. C'est vrai aujourd'hui au temps de l'Église, c'était vrai aussi avec son peuple terrestre, le peuple d'Israël. Si nous lisons le Cantique des Cantiques, nous voyons, il est question de la bien-aimée et du bien-aimé, du peuple juif, et puis du Seigneur. Et puis, il se tient à la porte, elle n'ouvre pas. Le Seigneur n'a pas forcé son chemin pour entrer. Et puis, quand elle ouvre, c'est déjà trop tard, il est parti plus loin. Il y a aussi cette... Il faut être capable de répondre au bon moment quand le Seigneur parle ou quand le Seigneur frappe. Alors, dans ce contexte des cantiques, voilà... Le peuple juif n'a pas compris. Il ouvrira la porte un jour. Mais entre-temps, le Seigneur est parti plus loin, vers nous, les nations, vers l'Église, vers ceux qui sont prêts à lui ouvrir la porte et à accepter la grâce. Alors, des portes dans la parole, il y en a encore une porte que le Seigneur, que Dieu, dans l'Ancien Testament, a instauré, a établi, c'est la porte du tabernacle. La porte du tabernacle, donc du parvis, la structure extérieure. La porte, elle était faite de quoi? De tissu de quatre couleurs différentes, qui nous parle des quatre évangiles. C'est le Christ. Déjà, c'était dans les pensées de Dieu. Pour entrer dans la présence de Dieu, on appelle ça le parvis. Il faut entrer par cette porte établie pour qui nous parle de Christ en figure, par anticipation. Mais il y a des conditions pour entrer dans ce parvis. Il y a des conditions. Il faut, pour entrer dans la présence de Dieu par cette porte, il y avait des sacrificateurs qui s'y tenaient. Et si je voulais apporter un sacrifice, une bête, elle était inspectée, il fallait qu'elle soit sans tache, il fallait aussi que moi je sois sans tache. Si je portais une tache sur la main, le front ou sur le corps, qui pouvait laisser croire qu'il y a un péché, alors je devais attendre, je devais me mettre attendre une semaine, et puis encore peut-être encore une deuxième semaine, jusqu'à ce que cette tâche disparaisse, ou alors on me donne accès à la présence de Dieu. Vous voyez, donc Dieu a donné cette grâce d'entrer dans sa présence pour avoir communion avec lui, pour considérer ce que Christ a fait pour nous comme nous le faisons le dimanche matin à l'heure de l'adoration. Lorsqu'on entre dans le parvis, qu'est-ce qu'on voit? On voit l'autel où on faisait brûler l'Holocauste. Quand on entre dans la présence de Dieu en esprit aujourd'hui, nous faisons le dimanche matin ensemble, nous entrons là pour voir ce que Christ a souffert, ce qu'il a fait pour nous. Et nous entrons plus loin encore. Nous entrons jusque dans les lieux saints, dans le lieu très saint, où nous voyons les choses qui étaient tenues secrètes jusque-là. Mais pour entrer là, il fallait entrer sans qu'il y ait de tâche, et il fallait apporter des sacrifices qui étaient selon la pensée de Dieu. Sinon, l'accès était barré. C'était la parole de Dieu qui disait ça, les conditions de Dieu. Donc voilà, il y a la grâce qui nous ouvre cette porte. Mais il y a les conditions à la sainteté de Dieu. Et donc, voilà, Dieu ouvre et personne ne peut fermer. Dieu ferme, on a lu dans la parole de Dieu, dans les Écritures, nous trouvons des passages où Dieu ferme. Dieu ferme des portes. Dieu ferme des chemins. Et les hommes ne peuvent pas les ouvrir. Par exemple, une des premières portes que nous trouvons dans la parole, c'est l'arche de Noé. Alors, voilà, pendant longtemps, on pourrait dire, le moyen du salut a été prêché clairement et concrètement par Noé. Tout le temps de la construction de l'arche, et il y avait une porte, une seule, à l'arche, sur le côté. Et puis, les Écritures nous disent que quand le temps est venu, ceux qui ont pris abri sont entrés dans l'arche et tous les animaux. Et puis c'est Dieu qui a fermé l'arche. C'est Dieu qui a fermé la porte de l'arche. Et là, c'est trop tard. Plus personne ne peut ouvrir cette arche. Imaginons même que si Noé aurait voulu ouvrir la porte pour un voisin qui a attendu trop longtemps, ce n'est pas possible. On trouve cette pensée aussi dans l'histoire de Lazare et le riche. Lazare se retrouve dans le sein d'Abraham, le riche se retrouve dans le feu qui ne s'éteint pas. Trop tard. Abraham dit, il existe un gouffre entre vous et nous qu'il n'est pas possible de traverser. Et il ne faut pas croire qu'il y aura une deuxième chance plus tard. Quand Dieu a fermé la porte de la grâce, c'est fini. Personne ne pourra l'ouvrir. Et nous sommes reconnaissants d'avoir emprunté cette porte. Nous qui savons, nous sommes sauvés pour l'éternité. Et nous pouvons continuer à prier pour ceux qui voient cette porte, à qui nous disons, à qui Dieu lui-même et le Saint-Esprit et le Seigneur dit, cette porte est ouverte encore aujourd'hui. Entrez. Aujourd'hui est un jour de salut. Nous pouvons prier pour ceux-là qui sont au courant que la porte est ouverte, mais qui n'ont pas encore fait le pas. Le temps de la grâce va se terminer. Cette porte va se fermer un jour. Nous ne savons pas quand. Dieu est patient, mais Dieu fermera la porte un jour. Et il y a ce principe aussi qu'on ne se moque pas de Dieu. Dieu parle une fois, deux fois, on n'y prend pas garde. Et si nous relisons l'histoire du Pharaon, qu'est-ce qu'il est dit ? Le Pharaon a endurci son cœur. Voilà, il a fermé la porte de son cœur à ce que l'Éternel, Dieu, lui disait. Il a endurci son cœur, il a bien fermé la porte à double tour. Une fois, deux fois, combien de fois ? Après, il nous est dit, c'est Dieu qui a fermé cette porte. Dieu a endurci le cœur de Pharaon. Il a dépassé un cap que nous ne pouvons pas juger, nous qui sommes des hommes limités. Mais Dieu, dans sa sagesse, dans sa souveraineté, eh bien, on peut fermer les portes. Et c'est trop tard. Peut-être trop tard encore. Pour le pharaon, c'était trop tard de son vivant. Dieu a ouvert la mer pour laisser passer son peuple. Et Dieu a refermé la mer sur Pharaon et toute son armée. Combien de rescapés y a-t-il eu de Pharaon et de son armée Quand Dieu a fermé, zéro. Tous ont péri. Alors il y a d'autres portes dans la vie, on pourrait dire des choix, ou des espérances, ou des attentes, des chemins que nous aimerions prendre. La porte est fermée. Il faut parfois attendre que Dieu ouvre la porte. Par exemple, Dieu a fait une promesse. Et nous ne voyons pas l'accomplissement de cette promesse. Il faut attendre que la porte s'ouvre. C'est-à-dire, la porte, il faut attendre que ce soit Dieu qui ouvre la porte. On pourrait dire autrement, il faut attendre que nous puissions nous engager dans cette voie avec le Seigneur. Si ce n'est pas avec le Seigneur ou dans la dépendance avec le Seigneur, ce n'est pas la porte que Dieu a ouverte. Prenons un exemple, Abraham. Abraham, Dieu lui avait promis un fils, le fils de la promesse, pour des bénédictions à venir. La porte reste fermée, pas d'enfant. Pourtant, Dieu l'a dit, mais cette porte de la promesse de Dieu, elle semble rester fermée. Alors, qu'est-ce qu'on fait? On va chercher à ouvrir une autre porte. On cherche une autre solution pour avancer, mais ce n'est pas le plan de Dieu. On cherche une autre porte. Alors Sarah propose de donner Agar pour avoir un fils. Et on ouvre une porte qui n'est pas celle de Dieu. Et voilà Ismaël. Ce n'est pas la porte de Dieu, ce n'est pas le fils de la promesse. Il y aura beaucoup de problèmes liés à ça. Beaucoup de problèmes sur la terre, parce que nous ouvrons des portes que Dieu ne voulait pas qu'on ouvre. Il fallait attendre que Dieu lui-même ouvre la porte. Et nous sommes parfois mis à l'épreuve dans notre foi, parce que nous sommes impatients. Mais si Dieu l'a dit, il le fera. Et puis voilà, Dieu ouvre des portes, ferme des portes. Il faut avoir ce discernement, mais dans la dépendance du Seigneur et dans la connaissance des Écritures, il nous donne aussi le discernement pour savoir si c'est une porte que lui a ouverte ou si c'est lui qui l'a fermée. Donc je répète, pour être sûr que ce soit Dieu qui ouvre une porte, il faut être sûr que ce soit Christ qui est derrière cette décision, qui est derrière ce choix, que nous puissions nous engager avec lui, étant sûr que c'est sa volonté à lui. Et ce n'est pas un défi, il suffit de s'en assurer en relisant les Écritures. Est-ce que Dieu ferait ça? Est-ce que le Seigneur Jésus? Non. Il était, selon, pour en revenir à l'exemple de Sarah, Abraham et Sarah, selon le plan de Dieu, un homme, une femme. C'est la pensée de Dieu, elle ne change pas. Pourquoi essayer de trouver des chemins de traverse? Alors là, on est sûr que ce n'est pas la pensée de Dieu. Alors il ne faut pas s'y engager tant qu'on n'est pas sûr. Après, Dieu donne la certitude, d'autant plus que nous avons reçu aujourd'hui, nous, l'Esprit Saint et les Écritures complètes. Alors d'un autre côté, donc on a lu même, Dieu ouvre les portes, les hommes ne sont pas capables de les fermer. Quand Dieu dit « parle », par exemple, il nous ouvre la possibilité d'annoncer l'Évangile. Les hommes ne peuvent pas arrêter ça. D'ailleurs, le Seigneur dit par exemple à l'apôtre Paul à Corinthe « ne te tais pas, parle car j'ai un grand peuple dans cette ville ». Seigneur, ouvre la porte. Et quand Dieu ouvre, les hommes sont incapables de fermer cette porte. Quand Dieu ferme, les hommes sont incapables d'ouvrir. Alors les hommes vont essayer de faire la même chose, et le monde aussi. Et nous trouvons dans les Écritures des exemples où les hommes, eh bien, ils ouvrent des portes qui ne sont pas celles de Dieu. Et le monde peut nous ouvrir des portes, des perspectives, mais qui ne sont pas le chemin de Dieu. Et ça, c'est dangereux pour nous. Bon, il y a déjà, on peut revenir à l'enseignement fondamental de l'Évangile. Il y a cette porte étroite et ce chemin étroit. Ça, c'est la pensée de Dieu. Qu'est-ce que ça veut dire? Il faut emprunter cette porte étroite. C'est-à-dire, pour entrer dans le royaume de Dieu, c'est-à-dire entrer dans un mode de vie en soumission avec Dieu, il faut se faire tout petit. Il faut passer par la repentance. Il faut se débarrasser de tout ce qui nous est important et qui n'est pas Dieu. Il faut, on pourrait dire, avec cette expression du langage courant, il faut descendre de ces grands chevaux pour passer par cette porte. Il faut se démunir de tous ces objets, de toutes ces choses du monde, ces prétentions. Comme ce jeune homme riche, le Seigneur, que faut-il, Seigneur, que je fasse? Le Seigneur lui dit, tu vas, tu vends tout ce que tu as, et puis tu me suis. Ah non, ça c'est trop demandé. Tu demandes trop, Seigneur Jésus. Alors il ne passe pas par cette porte étroite, il emprunte un autre chemin. Les portes ouvertes par le monde. La porte ouverte par le monde, c'est quoi? C'est la porte large, grande ouverte, le chemin large. Ah, les portes du monde, elles vont nous flatter, elles vont nous mettre en évidence. Elles vont exciter la chair. Ces voies qui s'ouvrent devant nous, ça peut être toutes sortes de choses. Hein. Ça peut être la carrière professionnelle. Et alors on oublie le chemin de Dieu. On a tellement de valeur dans cette carrière professionnelle. On nous met tellement en valeur. Toutes sortes de choses dans la vie, le monde va nous faire croire que c'est ce chemin-là, chemin facile. N'empêche que ce chemin large, où on prend tout pour soi, rien pour Dieu, il mène à la perdition. Il mène à la perdition. Mais le chemin étroit, il mène à la gloire. Et donc, on peut trouver des exemples dans la parole. Lot, il vivait sous des tentes avec Abraham. Et puis après, il a regardé vers le monde. Il a regardé vers la ville. Voilà des occasions d'avoir une vie agréable sur la terre, d'avoir une vie confortable ou une vie où on acquiert des richesses. C'est le cas d'ailleurs, parce qu'on retrouve Lot. Où est-il assis? Dans la porte de la ville. Il est là dans la porte de la ville, là où les gens entrent, sortent, où il y a du trafic, là où ceux qui s'assiedent ont une certaine importance pour juger des affaires de la ville. Et voilà Lot, un juste, la parole nous le dit, le juste Lot. Il a emprunté un chemin, il est entré par cette porte de la ville de Sodome pour s'y installer, pour y faire sa maison, pour y construire sa famille, avec sa femme et ses filles. Qu'est-ce qu'il en est résulté? Quand les deux anges sont venus, envoyés de la part de Dieu pour le sauver, pour sauver Lot et sa famille, qu'est-ce qui s'est passé? Les anges sont entrés chez lui, et puis les hommes de la ville se sont rassemblés autour de sa maison, de la maison de Lot. Et il nous est dit, il est écrit, il voulait briser la porte de la maison de Lot. Il voulait forcer la porte de la maison de Lot pour entrer et faire le mal. Et les hommes, Lot avait fermé sa porte pour être en sécurité. Ce n'est pas Dieu qui avait fermé cette porte-là. C'était sa maison. Là, il a dû fuir. Ce sont les anges qui l'ont protégé, pas l'inverse. Et puis, qu'est-ce qui s'est passé avec Sodome? Dieu a tout détruit. Dieu a tout détruit. Voilà. Et la famille de Lot, la femme, les filles, qui ont des valeurs du monde, regret de quitter le monde, pensées incestueuses de la part des filles, les choses du monde qui ont été là, vont créer aussi des conséquences fâcheuses. Et il y a d'autres exemples. Vous voyez, là, c'est l'exemple où le monde a ouvert ses portes à Lot, le juste, aux dépens de Lot. Pour un temps, peut-être, il a eu une vie confortable, on pourrait dire dans ce monde une belle vie, mais au bout du compte, c'est la catastrophe. Et puis, dans certains cas, les hommes veulent fermer les portes, ou le monde veut fermer les portes. Le monde veut faire taire l'Évangile, par exemple. Vous voyez ? On trouve ça dans les Actes, dès le début. On ferme des portes, on prend l'apôtre Pierre, on le met en prison. Voilà. Il ne peut pas assister à la réunion ce soir-là, il est en prison. On a fermé des portes, les hommes ont fermé des portes pour l'empêcher de vivre pour le Seigneur. Mais qu'est-ce qui s'est passé ce soir-là ? Un ange est venu et Dieu a ouvert la porte de la prison. Parce que les portes que les hommes ferment, elles ont beau être en fer avec des gros verrous et tout ce qu'on peut imaginer comme système de sécurité, pour Dieu, rien n'est impossible. Et voilà Pierre qui se retrouve dans la rue. Qu'est-ce qu'il va faire tout de suite ? Il va aller frapper à la porte de là où les disciples se réunissent. Il va à la réunion et on lui ouvre la porte. Elle se retrouve parmi les siens. Vous voyez ? Comme c'est beau comment Dieu agit. Alors on peut être dans l'incapacité. Peut-être que Dieu n'ouvrira pas la porte de la prison. Ça a été le cas pour Pierre, mais pour l'apôtre Paul. Bon, il était en prison, lui aussi. Et ce soir, il nous a dit en acte 23, je crois. Et ce soir-là, il était dans sa cellule. Le Seigneur se tint auprès de lui. Et lui dit, bon courage, ma grâce te suffit. Donc le Seigneur peut entrer. Peut-être l'apôtre Paul ne peut pas sortir. Peut-être je ne peux pas sortir pour aller là où je voudrais me trouver. Par exemple, à la Réunion, les circonstances m'en empêchent. Peut-être pas seulement les autres, mais les circonstances. Mais le Seigneur vient à moi. Ce n'est pas fermé pour le Seigneur. Aucune porte n'est fermée pour le Seigneur. Il traverse cette porte fermée par les hommes. Ces murs, ces murailles de la prison, pour le Seigneur, n'est pas un problème. Il vient encourager, parler directement à son serviteur. De même aussi, le premier jour de la résurrection, les disciples avaient fermé les portes. Ils étaient réunis, mais ils avaient fermé les portes par crainte des Juifs. Le Seigneur se trouve là. Donc, porte fermée, pour le Seigneur, n'est pas un obstacle. Et donc, voilà, il y a encore d'autres exemples. Jéricho. Jéricho avait fermé ses portes. On avait barré les portes, ville imposante, avec des grandes murailles. Qu'est-ce qu'il est resté de ça ? Ça n'a pas empêché le peuple de Dieu d'avancer. Tout est tombé. Tout a été écroulé. L'apôtre Paul, lorsqu'il s'est... Saul de Tarse, on va dire. C'est encore Saul de Tarse à cette époque-là, quand il est sur le chemin de Damas, prêt à aller faire du mal à ceux qui s'attendent au Seigneur Jésus. Le Seigneur l'arrête, le Seigneur lui parle. Il sera emmené à Damas par la main, parce qu'il est devenu aveugle. Il va retrouver la vue très vite. Le Seigneur va lui rendre la vue. Damas a fermé ses portes pour qu'il ne sorte pas. Les hommes de la ville ont dit « Il faut l'attraper avant qu'il sorte de la ville. » Il va passer... dans une corbeille, il ne passera pas par la porte que les hommes ont fermée. Le Seigneur va le faire sortir par ailleurs, les disciples du Seigneur, ceux que le Saul de Tarse était venu persécuter au départ, sont maintenant des frères et sœurs dans la foi, vont l'aider à descendre par la muraille, par une fenêtre de la muraille, dans une corbeille. Belle leçon d'humilité pour ce persécuteur qui maintenant a besoin des mains des rachetés du Seigneur pour échapper à l'ennemi. Donc le Seigneur agit d'une façon ou l'autre. Le Seigneur n'a pas ouvert ses portes de Damas pour le laisser partir. Mais la porte n'était plus un problème. Quand on accepte avec humilité la façon dont Dieu veut nous faire sortir parfois des impasses ou des dangers qui nous guettent. Donc voilà, pour terminer, j'aimerais juste encore mentionner une porte qui nous fait revenir au message de l'Évangile. Quand le fils d'Israël habitait encore en Égypte, il y a eu ces plaies d'Égypte et puis il y a eu la dernière. Qu'est-ce qu'il fallait faire pour être épargné de la dernière plaie? Il fallait prendre un agneau sans tache, sans défaut, figure de Christ. Il fallait l'égorger, le mettre à mort. Il fallait cette victime innocente. Pour quoi faire? Pour en obtenir le sang. Et le sang devait être mis sur les poteaux, le linteau, autour de la porte de la maison. Et il nous est dit, l'Éternel a envoyé son ange, un ange destructeur. Et là où Dieu voit le sang, il dit, je verrai le sang, je passerai par-dessus. Mais là où il n'y avait pas de sang, l'ange est entré dans la maison pour frapper. Que la porte soit ouverte ou fermée, ça ne change rien. On peut peut-être parfois croire qu'on est à l'abri dans une religion, par exemple, mais s'il n'y a pas le sang de Christ personnellement, le jugement de Dieu entrera pour frapper. Et pour nous, nous sommes à l'abri du sang de Christ. On en a parlé ce matin. L'ange destructeur n'entrera pas par cette porte. Jésus-Christ, nous qui sommes entrés par cette porte, qui est le Seigneur Jésus-Christ, mort sur la croix pour nos péchés, nous sommes à l'abri. Aucun jugement n'entrera par cette porte, parce que lui, il a payé au prix de son sang versé à la croix.